LAREF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur nos antennes en direct de Roland-Garros. On vous fait vivre l'AREF 2025. C'est la rentrée des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. C'est l'événement incontournable de la rentrée pour le secteur économique. Et j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises. Bonjour monsieur le sénateur et merci d'être
Bonjour.
Avec nous. Ravi de vous retrouver. Un petit mot peut-être sur cette rentrée. Comment vous sentez l'ambiance au sein des avec les patrons de France.
Écoutez, j'ai fait un débat, c'est une première pour moi de venir ici. Je crois que c'est la première fois qu'un communiste était invité à l'AREF. En plus, c'est une journée exceptionnelle parce qu'il y en aura deux. Il y a Fabien Roussel qui vient ce soir avec les autres chefs de parti. Non, mais moi j'ai eu un débat respectueux, courtois. J'ai toujours pensé que la démocratie c'était la dispute organisée.
Bien sûr.
Avec, évidemment, j'ai été beaucoup moins applaudi que beaucoup d'autres, ce qui est logique, mais j'ai tenu un discours de vérité, un discours d'échange, pas de stigmatisation, mais il faudra un débat. On est à un moment politique et social extrêmement dur. Les travailleurs et les travailleuses n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Un budget, on verra si le gouvernement tombe le 8 septembre prochain, mais pour l'instant, un budget d'austérité qui frappe extrêmement dur les plus modestes et qui épargne en réalité ceux qui ont déjà tout. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai entendu Patrick Martin hier ouvrir et appeler à une nouvelle politique de l'offre, mais depuis 15 ans, on est dans la politique de l'offre, celle qui précisément nous a conduits dans le mur politique et social et économique dans lequel nous sommes. Et je le dis ici tranquillement et je le réaffirme, il ne peut pas avoir de nouveaux cadeaux fiscaux aux grandes entreprises ou aux entreprises. On se rappelle le CICE, ça devait être 1 million d'emplois. Pour 100 milliards d'euros, ça n'a créé que 100 000. Et dans le même temps, frapper les plus modestes, enlever 2 jours fériés à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses.
Ça a fait débat. Hein, ouais,
ben, bien sûr. Ouais. Mais attendez, on est là pour un débat.
Oui, bien sûr.
Donc, je le redis, il y aurait une illusion pour les chefs d'entreprise s'ils demandaient de nouveaux cadeaux fiscaux, d'être épargnés par le budget, qu'on ne touche pas les plus riches et que dans le même temps, on frappe une nouvelle fois l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui sont déjà celles et ceux qui souffrent aujourd'hui. Et il y a une colère qui est là. Est-ce qu'elle s'exprimera dans la rue le 10 septembre ou à une autre date? Je n'en sais rien. Par contre, j'ai croisé beaucoup de gens cet été qui vivent extrêmement mal et qui sont extrêmement en colère. Et donc je pense que ça, les chefs d'entreprise et notamment au MEDEF, on doit l'entendre.
C'est vrai, alors quand vous dites extrêmement mal, j'imagine que c'est en termes de pouvoir d'achat, en termes de logement aussi. On est sur Radio Immo, et c'est vrai qu'on est en pleine crise du logement, il faut le rappeler quand même.
Mais attendez, aujourd'hui, lorsque vous êtes au SMIC en région parisienne, vous n'avez pas accès au logement. C'est ça le réel.
Et pas qu'en région parisienne.
Non, mais je prends la région parisienne parce que c'est le pire. Et on peut parler des autres métropoles, je connais beaucoup, je sillonne beaucoup la France, je suis bordelais d'origine. Je connais
ça
aussi le marché de l'immobilier, mais lorsque vous êtes en couple avec 2 SMIC aujourd'hui, vous n'arrivez pas à d'abord soit acheter un logement, mais même avoir accès à un logement. Parce qu'en plus, il faut 3 fois, évidemment, le montant du loyer. Donc c'est insupportable. Et bien évidemment, moi, on est encore au cœur de l'été. Enfin, on est en train de. Moi, je rappelle que plus d'un enfant sur deux n'est pas parti en vacances cet été. J'ai entendu les restaurateurs se plaindre qu'il y avait moins de monde dans les restaurants, mais aujourd'hui, qui peut se permettre et d'avoir une location et en plus de sortir au restaurant, ne serait-ce que quand on est en couple avec 1 ou 2 enfants. C'est impossible pour une majeure partie des gens. C'est ça le réel aujourd'hui. Donc, je le redis, moi je suis venu débattre autour du rapport des 211 milliards, des questions de transparence, mais aussi dans un moment budgétaire. Et j'ai entendu le discours de Patrick Martin hier, je suis en désaccord complet, mais c'est normal, c'est la démocratie. Mais ne croyons pas qu'on va encore épargner les entreprises, qu'on va encore donner des cadeaux fiscaux sans conditionnement, et que de l'autre côté, c'est la masse du peuple qui va payer.
Alors justement, donc vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises. Est-ce qu'on peut parler du rapport, justement? C'est vrai que c'est un sujet majeur, puisqu'on parle de dizaines de milliards d'euros, vous l'avez 211. Dit, chaque année, voilà, 211. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas, qui sont peut-être novices en la matière, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, justement, de ce rapport?
Alors, c'est une commission d'enquête qui a duré 6 mois, 87 heures d'audition, 33 PDG, c'est la première fois qu'on en a eu autant.
L'ensemble qui ont joué le jeu
Tous ont joué le jeu, à peu près, tous.
D'accord.
Allez, je vais le dire. Sur la matière de la transparence, 3 ministres ou anciens ministres, l'ensemble des administrations, des syndicats, Patrick Martin aussi, évidemment auditionné. La question, c'est donc, pour la première fois, on a un chiffre consolidé, objectivé. On a collecté toutes les données de data scientists du Sénat où on travaillait, donc 211 milliards. C'est des aides budgétaires, des aides fiscales, classées et déclassées, et les exonérations de cotisations patronales. Donc c'est le chiffre est de 211 milliards d'euros. La question, c'est qu'elle est contrôlée fiscalement. Ça, ça fonctionne, mais peu ou pas de conditionnement. C'est-à-dire, on donne de l'argent, on ne sait pas à quoi il sert. Pas de suivi et très peu d'évaluation. Donc en fait, on donne de l'argent ou on exonère, ça c'est évidemment les dépenses fiscales, et on ne sait pas si en réalité cela fonctionne ou pas. Je reprends ça et je l'ai dit tout à l'heure, le CICE, je rappelle Pierre Gattaz, le BIMS, donnez-nous 15 milliards par an et sur l'ensemble du quinquennat Hollande et on créera 1 million d'emplois. On a donné 100 milliards en 6 ans, aujourd'hui on l'a transformé en exonération de cotisations patronales pérennes. 20 milliards chaque année, ça a créé 100 000 emplois. Donc en réalité, cette politique de l'offre et de cadeaux sans conditionnement, en réalité, ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que quand j'entends Patrick Martin exiger une nouvelle contribution, je lui dis que ça ne sert, en réalité, ça ne servira ni économiquement, ni socialement, ni écologiquement. Donc il faut changer les règles. Nous, on propose plusieurs choses, la transparence, un meilleur suivi, une meilleure évaluation. Puis une question, on a du DEL. On lui offre un objectif et il y a une condition. Voilà. Très précis,
comment,
très clair pour tout le monde.
Comment le suivi serait possible à mettre en place ?
Ben, attendez, on suit bien les dépenses sociales. On suit bien aujourd'hui, par exemple, les aides aux chômeurs et aux chômeuses. Drastiquement, d'ailleurs. Si vous ratez une fois pendant un mois d'adresser le papier à France Travail, vous êtes radié. Donc, on sait faire. Et par contre, vous accordez 211 milliards à travers 2267 dispositifs. Il n'y a pas de tableau central, on ne sait pas à qui on l'accorde et on ne sait pas si ça marche. Donc on propose de révolutionner tout ça. Par exemple, une des questions que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui devrait intéresser un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est qu'on propose d'avoir un outil central, un guichet unique, où chaque entreprise peut venir dire à quoi j'ai droit et comment on dispatche. Parce qu'aujourd'hui, une majeure partie est captée par des grandes entreprises qui ont de l'ingénierie humaine et financière pour y accéder, mais le petit chef d'entreprise, qui est la majeure partie des gens du MEDEF, qui sont des TPE, PME de moins de 10 salariés, eux, ils ne savent pas faire. Ils ne sont pas accompagnés. Et parfois, il y a l'accès au non-recours aux aides auxquelles ils ont droit. Donc ça, c'est une proposition.
Et puis ça dépend des secteurs aussi. Vous prenez le bâtiment, les chefs d'entreprise dans le bâtiment ne sont pas du tout informés comme certains autres secteurs. Alors, ces aides dont on parle devaient soutenir l'investissement, l'innovation et l'emploi. Dans les faits, est-ce que vous avez observé vraiment un impact mesurable sur la création d'emplois et sur la compétitivité, si on parle factuellement ?
Alors, la compétitivité, selon Louis Gallois, le père du CICE, hein, c'est celui, il a dit la compétitivité, ça ne s'évalue pas. C'est comme ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que non, aujourd'hui, on ne peut pas évaluer si cela fonctionne ou pas parce qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de comparaison possible. En grosso modo, vous prenez, vous avez une question, le patronat exige une aide, on lui donne et en réalité, on ne regarde jamais si ça marche. Imaginez qu'il y a 255 dépenses fiscales. J'ai entendu Amélie Montchalin d'ailleurs reprendre une partie du rapport. Nous, on propose de le diviser par 3. Elle a déjà dit qu'elle souhaitait à la rentrée, si le gouvernement ne tombe pas le 8 septembre prochain, ce que, évidemment, j'ai des doutes, enrayer déjà 45. Bon, ben, il y a déjà une question, parce qu'il y a un certain nombre de crédits d'impôt qui ne servent qu'un seul gros acteur, et dont aujourd'hui, on se pose des questions si l'impact en termes d'investissement ou d'emploi est significatif. On ne le pense pas.
Mais il n'y a pas de data claire là-dessus.
Non, mais attendez, pour la première fois, le Sénat a fait le boulot. On a remis cela maintenant au commissaire au plan. On demande maintenant que ce tableau soit actualisé chaque année, qu'il y ait un débat qui s'organise dans chaque entreprise. Ça, j'y tiens, et je l'ai redit tout à l'heure, les 33 PDG auditionnés ont tous dit qu'ils étaient d'accord avec la transparence. Je pense que ce débat doit avoir lieu dans chaque entreprise, avec les délégués syndicaux, donner le montant, à quoi ça sert, à quoi il est utile. Parce que le meilleur débat qui est possible de faire, ce n'est pas dans une commission d'enquête, c'est dans chaque entreprise, les délégués syndicaux avec les chefs d'entreprise, sont les mieux à même de savoir, tiens, on a touché tel dispositif, tel montant, à quoi il a-t-il servi, est-ce que ça a été utile ou pas. Ce débat, il doit avoir lieu dans l'entreprise, dans chaque entreprise. Donc, Madame Edelman, tout à l'heure, qui était avec moi, a dit qu'elle était d'accord pour la transparence. J'espère qu'elle va organiser ce débat au sein d'Orange, et j'espère que les autres chefs d'entreprise qui étaient présents tout à l'heure lors de la table ronde vont le faire avant d'attendre une législation et un projet de loi ou une proposition de loi.
Alors, certaines grandes entreprises bénéficient d'aides tout en supprimant des postes ou en versant des dividendes records. Oui. Faut-il conditionner, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, les aides publiques à des engagements sociaux et environnementaux concrets ?
Alors, il y a deux questions. Parce que je rappelle que c'est un rapport, on le dit souvent, du sénateur communiste. Mais je rappelle qu'il a été adopté à l'unanimité au Sénat, dont la commission était majoritairement avec des hommes et des femmes de droite libéraux. Mmh. Ils le disent eux-mêmes.
Bien sûr.
Le président Rydman, d'ailleurs, assume qu'il est un libéral. Il y a deux questions. La première, c'est que nous disons que l'argent public ne doit pas servir les actionnaires. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Lorsqu'on donne de l'argent public, il doit servir les salaires, les formations, l'emploi, l'investissement productif, etc., etc., mais pas les actionnaires. Un certain nombre de grandes entreprises, aujourd'hui, touchent de l'argent public, licencient et versent des dividendes records. C'est insupportable. Donc il faut déduire du montant distribuable aux actionnaires, le montant des aides publiques. Et la deuxième chose, ça c'est une grande première, et y compris que la droite sénatoriale soit d'accord avec ça, devrait interroger ici d'ailleurs au MEDEF, c'est que les délocalisations sont devenues insupportables. Parce qu'une délocalisation ne se prend pas du jour au lendemain. Moi d'ailleurs, je suis chef d'entreprise. Et je sais qu'en tant que chef d'entreprise, on regarde sur le long terme. Lorsqu'un patron touche des aides publiques, licencie et ferme une entreprise, il ne le prend pas du jour au lendemain. Il le prévoit sur 2 ou 3 ans. Donc le réel, c'est que nous demandons le remboursement de toutes les aides publiques en cas de délocalisation sur les 2 dernières années. Ça me semble logique. Si vous jouez le jeu, on continue à vous l'accorder. Puisque vous avez décidé de délocaliser, vous remboursez l'argent public.
Alors, derrière ce débat, il y a la question du pacte social. Que doit attendre la collectivité en retour quand elle soutient justement massivement ces grandes entreprises ?
C'est au minimum de maintenir l'emploi et le tissu industriel en France, mais en plus de pouvoir le développer. C'est un écosystème. C'est pour ça que est illusion de penser, j'entends des libéraux ici se réclamer du libéralisme, dire il faut moins d'État, moins de normes, etc. Mais ce sont les premiers à dire « Ah, on a une difficulté, il nous faut un plan d'aide, il faut que l'État vienne à notre secours, il faut que les collectivités abondent parce que si elles veulent qu'on monte une entreprise, il faut de l'argent. » Donc, on a d'abord avoir un débat avec elles et puis après se fixer des conditions claires. On vous accorde une aide pour tel objectif, maintenir l'emploi, maintenir le site industriel, maintenir le savoir-faire, le transformer de façon écologique. Et donc on vérifie, et on fait des étapes. Tous les 3 ans, on regarde, tenez, on vous a accordé une aide, vous avez licencié ou pas, si vous avez licencié, vous remboursez. Parce que vous étiez engagé à maintenir au moins l'emploi. Mais c'est vrai qu'il faut que, à contrario, la question soit posée dès le départ. Il faut changer la philosophie des aides. Aujourd'hui, on accorde des aides sans contrepartie. La question, c'est d'avoir un dialogue franc, sincère avec le patronat et une partie du capital, et leur dire, on va vous accompagner. Voilà les objectifs, voilà les conditions, et si vous ne les remplissez pas, il faudra rembourser.
Est-ce que le risque n'est pas de faire fuir les entreprises hors de France ? C'est une question qui se pose.
Oui, mais ça, vous savez...
Est-ce que vous y avez pensé ?
Oui, j'y pense longuement. J'ai relu ce qu'a fait Jaurès, les écrits de Jaurès, puis je suis directeur de l'Humanité. Le patronat, depuis qu'on accorde des droits aux travailleurs et aux travailleuses, explique par exemple, en 36... Donc Jaurès était bien mort, mais en 36, lorsqu'on a offert les premiers congés payés, le patronat a crié qu'on allait fermer les entreprises et que le capital allait fuir à l'étranger. Écoutez, je vois que le capital a l'air de bien se porter, puisque je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ici. Bref, à chaque fois que l'on pose des questions ou que l'on veut protéger la masse des travailleurs et des travailleurs, le patronat hurle et dit qu'on va délocaliser. La réalité, c'est qu'il y en a une partie, quoi que vous fassiez, ils partiront, parce qu'ils seront toujours plus gourmands. Certains vous demanderont moins de taxes, moins d'impôts. Mais c'est quoi le modèle social qui reste ? Il faut nous le dire. Est-ce que c'est le modèle social comme le Bangladesh ou la Chine ? Si c'est ça, pour nous, c'est non. Donc, il faut avoir un débat sérieux, régulé. Évidemment, on est dans une compétition internationale, donc il faut le regarder. Évidemment, en pleine guerre commerciale. Donc, Tout ça, il faut le prendre avec considération, mais se laisser à chaque fois mettre sous pression par le patronat en disant « si vous faites ça, oh là là, ça va fuir, oh là là, il n'y aura plus d'investissement ». Mais le réel, c'est qu'une partie de ceux-là qui exigent toujours cela, quoi que vous fassiez, ils partiront et ils chercheront toujours l'herbe la plus verte ailleurs. Donc, le réel, c'est que ici, on a un modèle social dont nous devons être fiers. Qu'est-ce que cherche une entreprise ? Elle cherche des salariés bien formés, bien éduqués. Et c'est le modèle social qui le permet. Deuxièmement, elle veut une énergie pas chère. Le réel, c'est que nous avions un modèle avec EDF, GDF nationalisé, qui était un atout de notre compétitivité. On a tout libéralisé sous pression du patronat. Le réel, c'est que ici, le trois quarts, ça mord les doigts. Donc il faut revenir sur ça. Et puis, évidemment, il y a des prélèvements obligatoires importants. Mais on a aussi un des capitales le mieux aidé. 211 milliards d'euros, rien que pour les dispositifs d'État, en oubliant les collectivités territoriales et les aides européennes. Donc, en réalité, nous sommes dans un modèle assez compétitif. C'est ça le réel. Et nous avons des atouts considérables. Nous avons, par exemple, les 35 heures, dont d'ailleurs 80% des travailleurs et des travailleuses font au-delà de 35 heures. Mais ils sont parmi les salariés les plus productifs au monde. C'est ça une des questions. Parce que vous pouvez faire travailler les gens 70 heures, même 50 heures, comme en Chine. Mais le réel, c'est que si vous faites ça, vos salariés seront bien moins productifs. Donc il faut tout mettre sur la table. Et donc, voilà, mais c'est un débat qui me passionne, vous le voyez.
Oui, je vois ça. Votre avis.
On continuera d'ailleurs avec Patrick Martin, il vient à la fête de l'humanité.
Ah bah, ça va être sympa le débat. J'aimerais bien avoir votre avis sur le statut. Il l'a évoqué brièvement, il a parlé très très rapidement de ce sujet, sur la micro-entreprise qui fait débat, qui fait polémique, notamment par rapport à la franchise de la TVA. Quel est votre avis sur ce statut d'auto-entrepreneur ?
Alors attendez, bon. Statut d'auto-entrepreneur, c'est complexe. Pourquoi on l'a fait ? Il faut rappeler pourquoi on l'a fait. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait ça. Pourquoi ? En réalité, pour faire effacer le black, le travail illégal. C'est le réel. C'est-à-dire, le salarié qui faisait un peu de travail illégal le samedi et le dimanche, qui bricolait un peu, on a dit on va créer ce statut d'auto-entrepreneur pour légaliser les choses. Très bien. Mais aujourd'hui, il est complètement dévoyé. Pardon, mais on n'est plus à seulement la personne qui fait du travail un peu complémentaire. Aujourd'hui, c'est quoi ? La majeure partie, c'est les travailleurs ubérisés, qui en réalité, à qui l'on vend une grande liberté, mais qui sont en réalité, ils sont dépendants de l'algorithme sur leur iPhone, qui aujourd'hui est un donneur d'ordre. Donc, il a été dévoyé en réalité par ces grandes plateformes qui d'ailleurs...
Il n'y a pas que les Uber qui sont entrepreneurs. Moi, j'en connais plein autour de moi, ils ne sont pas Uber.
Non, une majorité... Une majorité aujourd'hui d'auto-entrepreneurs sont en réalité des travailleurs ubérisés dont on a détourné. Et il existe après encore des auto-entrepreneurs réels.
Dans le bâtiment.
Bien sûr. Mais je vous prends les deux. Et donc eux, évidemment, ce qui a été fait sur la franchise à la TVA est une aberration totale. Et nous avons demandé d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, à revenir dessus. Et nous avons dit au gouvernement que ce n'était pas une bonne solution. Mais je rappelle que le statut auto-entrepreneur ubérisé... Là est une question parce que ces géants ne respectent pas le droit du travail et en réalité ne paient aucun impôt en France. Là, nous avons une question.
Oui, mais ça, c'est un autre combat.
C'est pas qu'un autre combat, il est intimement lié parce qu'aujourd'hui, une majorité des auto-entrepreneurs, c'est cela.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur notre plateau. On se retrouve dans quelques instants pour une autre interview, justement, en direct de la REF à Roland-Garros.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.